Je ne suis qu'un instrument que tu dois utiliser pour ta seule gloire. Que ton Esprit Saint, qui est l'enseignant par excellence, nous aide à comprendre ce que tu veux que nous puissions savoir de ta part aujourd'hui. Parle à ce peuple. Accepte que je disparaisse et que tu apparaisses en train de parler à ton peuple. Et que tu bénisses chacun de nous par ta parole. Au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La méditation de ce jour, c'est dans trois livres. D'abord, le psaume 24. Psaume 24, le premier verset. Ensuite, Luc chapitre 16, versets 9 à 12. Et puis, 1 Timothée chapitre 6, 17 à 19. Lisons d'abord le psaume au chapitre 24. Le premier verset. Et la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Au Seigneur, la terre et ses richesses, le monde et ses habitats. Celui qui l'a fondé sur les mers et la terre stable sur les flots. Au Seigneur, la terre et ses richesses, le monde et ses habitants. Luc, au chapitre 16, versets 9 à 12. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Eh bien, moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance pour une toute petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande affaire. Et celui qui est trompeur pour une toute petite affaire est trompeur aussi pour une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui vous est étranger, qui vous donnera ce qui est à vous? 1 Timothée chapitre 6, le verset 17 à 19. Aux riches de ce monde-ci, ordonne de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espoir dans une richesse incertaine, mais en Dieu, lui qui nous dispense tous les biens en abondance pour que nous agissions. Qu'il fasse le bien, s'enrichisse des belles œuvres, donne avec largesse et partage avec les autres. Ainsi amasseront-ils pour eux-mêmes un bel et solide trésor pour l'avenir, afin d'obtenir la vie véritable. C'est la parole du Seigneur. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être comptés parmi les vivants ce matin, afin que nous puissions encore une fois l'écouter et méditer sur sa parole. Et la prédication de ce matin s'articule sur le thème suivant. Pour vivre la grâce surabondante, gardons le cap de fidélité dans nos engagements devant Dieu. Pour vivre la grâce surabondante, gardons le cap de la fidélité dans nos engagements devant Dieu. Le texte que nous venons de lire en Luc, au chapitre 16, les versets 9 à 12, ce texte est précédé par un texte qui, selon les commentateurs de la Bible, serait parmi les textes difficiles à interpréter dans la Bible. C'est le texte qui nous parle d'un gérant habile, un gérant malhonnête. Mais ce gérant qui a dilapidé les biens de son maître semble recevoir les éloges de son maître. Mais il semble recevoir les éloges de son maître à cause peut-être de sa sagesse, la sagesse qu'il a usée pour son avenir, pour se construire un avenir meilleur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Son maître, après avoir entendu parler de lui, et après avoir reçu le rapport qu'il a dilapidé ses biens, il devait nécessairement lui retirer ce droit d'être gérant de ses biens. Mais qu'est-ce que ce gérant a dit? Il semble que physiquement, il n'avait pas la force pour travailler. Et il s'est dit, comme je ne suis plus dans le droit d'être gérant, qu'est-ce que je vais faire? Travailler au champ? Je n'en ai pas la force. Aller dans les rues pour mendier de quoi manger? Il dit, j'en ai honte. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et il a trouvé une solution. Il a fait appel à des gens qu'on appelle les débiteurs de son maître, ceux à qui il a prêté les biens de son maître, et à chacun, il lui a demandé, quelle est la dette que tu dois à mon maître? Le premier a dit, 100 jarres d'huile. Et le gérant lui dit, écris alors 50. Le deuxième, il a dit 100 sacs de blé. Et le gérant lui dit, prends ton reçu et écris 80. Mais l'idée de ces gérants habiles, c'était que il est en train de se construire des amitiés qui, lorsqu'il ne sera plus gérant, il n'aura plus droit à son salaire, il pourrait peut-être se réfugier auprès de ses créditeurs. Et c'est comme ça qu'il a agi. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi Jésus rappelle cette parabole du gérant habile à ses disciples. Et là, il dit, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans leur demeure éternelle. Pendant la semaine, Et précisément le mardi, je pense, nous avons dit que nous ne devons pas nous enorgueillir après avoir été enrichis par Dieu, parce que Dieu nous a enrichis par sa grâce. Mais aussi, nous avons dit, l'argent de ce monde peut se faire des ailes pour monter dans les cieux. Et donc l'argent peut disparaître d'un moment à l'autre. Mais que devons-nous faire avec cet argent que nous avons comme bénédiction de la part du Seigneur? Nous devons utiliser cet argent ou ces richesses que Dieu nous donne pour vivre une grâce surabondante. Mais pour vivre une grâce surabondante, que devons-nous faire? Et c'est ça la question à laquelle cet enseignement veut répondre. Nous voudrions répondre à cette question et celle de savoir que faire pour vivre une grâce surabondante. Avant d'y aller, je tiens à vous rappeler que l'être humain vit par la grâce de Dieu. Il obtient tout par la grâce. Et selon l'histoire du salut que nous lisons dans toute ou à travers la Bible, cette histoire du salut nous montre que Dieu a fait grâce à l'être humain. Il l'a créé différemment de toutes les autres créatures. Et cette différence se manifeste plus dans le salut de l'être humain. L'homme, c'est cet être qui a été créé à l'image de Dieu et qui a désobéi à la volonté de Dieu. Et par cette désobéissance, il a mérité la condamnation éternelle. Cependant, notre Dieu, qui est plein d'amour, il a manifesté cet amour envers l'être humain en offrant son Fils Jésus-Christ sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Et l'homme est différent des êtres, de toutes les autres créatures, même des créatures spirituelles comme les anges, puisque quand un ange a péché contre Dieu, lui, il n'a pas droit au pardon. Mais Dieu nous a fait grâce, il nous a pardonné, il nous a sauvés en Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes les enfants de Dieu en nous appropriant à cette œuvre que Dieu nous a faite en Jésus-Christ sur la croix. Il nous a sauvés de la mort pour la vie. Et nous bénéficions de la grâce abondante de Dieu toute notre vie. Il est justifié, cet être humain, il est justifié devant Dieu. Quand je reviens à Romains au chapitre 1er, le verset 17, Paul rappelle que la justice de Dieu s'est révélée en Jésus-Christ. Et cela par la foi et pour la foi. Ainsi donc, comme repris dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. En effet, dès lors qu'une personne s'engage à suivre et à vivre comme justifié devant Dieu en Christ, il vit par la foi. Il fait tout par la foi. Et tout son comportement se traduit ou traduit sa confiance en Dieu, le Dieu Sauveur et Seigneur de sa vie. Ainsi, l'une des plus grandes caractéristiques de la vie du justifié par la foi en Jésus-Christ, de cette personne qui bénéficie de la grâce de Dieu, c'est de donner des offrandes à Dieu comme reconnaissance à toutes les bénédictions que Dieu déverse dans sa vie à commencer par la plus grande des bénédictions qui est le salut en Jésus-Christ. Sachant que Dieu s'est donné pour lui et pour lui accorder le salut, le chrétien donne toutes les sortes d'offrandes comme acte de reconnaissance à Dieu. Je voulais vous rappeler quelques types d'offrandes que le chrétien est appelé à donner ou à offrir à Dieu. D'abord, ce chrétien qui a reçu Jésus comme sauveur et qui a fait de Jésus le Seigneur de sa vie, celui qui règne sur tout ce qu'il est, il sait que chaque fois qu'il devra se présenter devant le Seigneur, il ne peut venir main vide. Je me tiens au psaume qui dit: quand vous venez auprès du Seigneur, devant le Seigneur, vous ne devez pas venir main vide. C'est parce que dans la vie chrétienne et dans la vie religieuse, il n'y a pas de culte sans offrande. Dis à celui qui est à côté de toi, il n'y a jamais de culte sans offrande. Et c'est là que nous devons donner des offrandes que nous appelons des offrandes ordinaires. Chaque matin, quand nous réunissons pour offrir un culte à Dieu, nous devons donner des offrandes. Nous sommes appelés à donner dans chaque service cultuel des offrandes pour que ce culte soit véritablement un culte pour l'honneur de Dieu. Amen. Ce chrétien qui a fait de Jésus le Seigneur de sa vie, il reconnaît que tout ce qu'il obtient comme bénédiction vient de Dieu. Et il doit lui rendre grâce. Il lui donne alors des actions de grâce, accuse de remerciement. Quand il a vu la main de Dieu intervenir dans sa vie, il ne peut pas rester calme. Il a envie de donner quelque chose, accuse de remerciement à Dieu. Et c'est ce que nous appelons les actions de grâce. Il sait que de tout ce qu'il a, Dieu a une part, d'après les Écritures de l'Ancien Testament comme les Écritures du Nouveau Testament. Dieu a une part et cette part lui revient. C'est la dîme. Le 1/10 de tout ce que vous avez revient à Dieu. Et celui qui a fait de Dieu, de Jésus-Christ son Seigneur, il reconnaît ça. Il donne sa dîme de toutes ses recettes. Je pense qu'actuellement, Dieu pourrait nous... Il pourrait peut-être s'étonner de notre manière de nous comporter devant lui. Car il nous a donné la grâce. Et par cette grâce, toutes les offrandes que nous devons donner, ça doit nécessairement découler de notre bonne volonté et de notre reconnaissance envers ce qu'il fait dans notre vie. Dans l'Ancien Testament, il semblait que, et il est vrai que, à la fin de chaque année, on devait recouvrer obligatoirement et forcément la dîme. Et donc, à la fin de l'année 2017, il fallait que les serviteurs de Dieu de cette église locale passeraient à chaque porte des membres de cette église pour recouvrer. C'était un recouvrement forcé. la dîme de tout ce que tu as. Et il devait venir avec un bâton et faire passer toutes choses à comptant par 1, 2, 3, 4. La dixième bête qui va passer, elle devait nécessairement passer de l'autre côté. Ça revient à Dieu. Pouvez-vous nous autoriser de reprendre cette pratique? Puisque vous ne voulez pas amener et donner ce qui revient à Dieu, il fallait que nous puissions le recouvrer de manière forcée. Malheureusement, vous n'êtes pas prêts. Et nous comptons sur votre bonne volonté. C'est ça, la dîme. C'est l'un des types d'offrandes que les anciens, les Israélites, ceux qui nous ont précédés dans la foi, ont pu donner à Dieu. À part ce type d'offrande, le chrétien doit donner aussi des offrandes de la foi, des offrandes de foi. C'est notamment les offrandes ou les vœux, la souscription pour la réalisation de telle ou telle autre activité à l'honneur de son Dieu. Et donc il y a toute une série de catégories d'offrandes que nous devons offrir à Dieu, puisque là je ne reviens pas aux offrandes de paix, aux offrandes comme les prémices et toutes les autres catégories d'offrandes. Si je me limite à ça, je voudrais vous rappeler que nous devons, en tant que chrétiens, garder le cap de notre fidélité dans nos engagements devant Dieu. Et pour y parvenir, la première chose que nous devons reconnaître dans notre vie, c'est que dans tout ce que nous sommes des gérants de Dieu. Nous sommes des gérants de Dieu. Mais alors, nous sommes quel type de gérants? Sommes-nous des gérants habiles ou malhonnêtes? Ou sommes-nous des gérants honnêtes? C'est ça la question que nous devons nous poser. Quand j'ai lu les psaumes au chapitre 24, il dit noir sur blanc que au Seigneur revient quoi? La terre et ses richesses. Voire même tous les habitants de la terre sont la richesse de qui? De l'Éternel. Et donc, à commencer par moi-même et tout ce que j'ai, je suis la richesse de qui? La richesse de Dieu. Et si nous sommes des gérants de Dieu, nous gérons ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous offre. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu, comme tout ce que nous gérons appartient à Dieu. Et donc, le premier devoir que nous devons nécessairement faire, c'est de reconnaître que dans notre engagement devant Dieu, pour garder le cap de notre fidélité dans cet engagement, nous devons nous reconnaître comme étant des gérants de Dieu. Nous devons être conscients que la source de notre vie et de nos biens se trouve en Dieu. Et c'est Dieu attend de chacun de nous la prudence et le discernement dans la gestion de ce qu'il met à notre disposition. L'évangéliste Luc nous dit, en verset 10, il dit, « Celui qui est digne de confiance pour une toute petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande. Et celui qui est trompeur pour une petite affaire, il est aussi trompeur pour une grande. » C'est là que je me pose et que je vous pose aussi la question de savoir si nous sommes des gérants de Dieu. Et il a été d'abord confirmé que nous sommes la richesse de Dieu et que tout ce que nous avons revient à Dieu. Nous sommes des gérants de Dieu. Sommes-nous des gérants habiles ou des gérants honnêtes? Est-ce que Dieu a confiance en nous dans les petites choses qu'il nous donne pour qu'il soit aussi confiant que lorsqu'il nous donnera des grandes choses, nous serons aussi honnêtes et nous serons voués à lui rendre gloire. Si on faisait un petit exercice par rapport à ce type d'offrande que je viens de citer ici, il semblerait que la majorité de nous savent donner les offrandes ordinaires, puisque lorsque nous allons offrir à Dieu au moment opportun, c'est chacun de nous qui passera devant pour remettre ce qu'il a donné, ce qu'il a à donner à l'Éternel. Alors j'ai dit bravo à vous, Église, qui connaissez déjà comment donner les offrandes ordinaires. Mais je me pose la question, est-ce que c'est une habitude? Et dans tous nos services cultuels, avons-nous l'habitude de donner ces offrandes ordinaires? Il revient aussi à nous de nous poser la question, si Dieu nous confie des responsabilités, je sais que ce que Dieu nous donne, ce ne sont pas des richesses habiles, des biens mal acquis, mais ce sont des richesses que Dieu nous a confiées par honnêteté. Et c'est le fruit même de notre travail de chaque jour. Mais avons-nous l'habitude de donner la dîme de ce que Dieu nous a donné? Alléluia. C'est un sujet de réflexion. Je me suis toujours imaginé une église où chacun des membres pourrait donner sa dîme. Quelles seraient les recettes de cette église? Je ne connais pas les statistiques de cette paroisse. Nous sommes au nombre de combien, révérend pasteur? Plus de 350. Et chaque mois, vous recevez la dîme de ces plus de 350. Et chacun donne combien? C'est selon ses recettes. La dîme revient chaque mois à combien? Pour ces plus de 350. Oui, oui. Ok, merci. Ça, c'est pour échapper. C'est pour échapper. Alors, les diacres peuvent répondre, mais alors je vais essayer de faire des investigations après ce culte. Mais je m'imagine que si chacun de nous devrait donner la dîme de ses recettes chaque mois, non, le budget que nous avons établi pour cette année, ça pourrait même être couvert par la dîme seule. Je ne sais pas si je me trompe. Puisque cette année, nous voulons atteindre 115 000 dollars. Mais les 115 000 dollars, ça serait peut-être la recette annuelle de l'aide de nous. Il n'y a pas de commerçants parmi nous. Ça pourrait être peut-être même la dîme de l'aide de nous. Alors, est-ce que nous sommes fidèles dans cette optique-là? Dieu nous dit, celui qui est digne de confiance pour une toute petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande. Et celui qui est trompeur pour une toute petite affaire est trompeur aussi pour une grande. Mais il y a une question que Jésus pose à ses serviteurs. C'est au verset 12. Il dit, et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui vous est étranger, qui vous donnera alors ce qui est en vous? Est-ce que nous sommes sûrs que nous sommes les gérants de Dieu? Et que d'abord nous, nous appartenons à Dieu et que tout ce qui nous appartient appartient à Dieu. Sommes-nous conscients de ça? Oui ou non? Oui. Alors, de ce que Dieu nous a donné, avons-nous l'habitude de donner ce qu'il nous appelle à donner? Il y a un point d'interrogation. Pour que nous puissions vivre la grâce surabondante, le premier point de notre fidélité dans nos engagements devant Dieu, c'est de nous reconnaître que nous sommes des gérants de Dieu et que nous appartenons d'abord à Dieu et tout ce que nous avons ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Et quand nous gérons l'argent, les richesses que Dieu nous donne, nous devons nécessairement être prudents. Et nous devons aussi user de l'esprit de discernement dans la gestion de ce que Dieu met à notre disposition. La deuxième chose à reconnaître, c'est d'être conscient que nous sommes des fils d'Abraham. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il a dit, à travers toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Il lui a dit, bénir, je te bénirai. Et il l'a répété à Jacob. Au chapitre 28 de Genèse, quand il s'est révélé à Jacob comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il a dit, je te bénirai. Et à travers toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Quand nous avons accepté par la foi le Seigneur Jésus-Christ, qui est de la descendance d'Abraham, nous sommes aussi faits par la foi des fils et des filles d'Abraham. Et quand Dieu nous bénit, il voudrait que, à partir de notre bénédiction, les autres nations ou toute la terre soient bénies. Et c'est là que, pendant la semaine, j'ai dit, Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Et c'est là que l'apôtre Paul, quand il écrit à Timothée, il dit, en ces riches de la terre, en ces riches de ce monde-ci, recommande ou ordonne de ne point s'enorgueillir et de ne point mettre leur espoir dans une richesse incertaine, mais de mettre leur espoir en Dieu, lui qui nous dispense tous les biens en abondance pour que nous agissions. Mais qu'est-ce qu'il recommande à Timothée? C'est de dire à ces riches de la terre, aux richissimes de ce monde que nous sommes, que nous puissions faire le bien et nous enrichir à belle œuvre, que nous puissions donner avec largesse et partager avec les autres, Et c'est comme ça que nous puissions, que nous pouvons nous amasser un beau trésor, un trésor solide pour notre avenir. Et c'est comme ça que nous pouvons obtenir la vie véritable. Si Dieu nous a enrichis, c'est pour que nous puissions aussi enrichir les autres. Et surtout les plus faibles que nous, les démunis. Si j'étais Kandiki, j'allais vous dire les exclus du banquet de la vie. Ainsi donc, la gestion de notre argent révèle sur quel fondement notre vie repose et quelle place le Christ occupe dans notre vie. Quand nous servons les autres, c'est Christ qui nous servons à travers les autres, puisque Dieu se révèle à nous à travers le prochain. Et quand vous servez le prochain, vous êtes en train de servir Dieu lui-même. Mais aussi, en servant les autres, compte tenu de ce que ce serviteur habile, le gérant habile, a fait de ses débiteurs de son maître, en bénissant les uns et les autres, nous sommes en train de nous construire un avenir meilleur. Une vie que Timothée, à où Paul dit, c'est une vie véritable. Et c'est là que j'ai dit et que je vous rappelle, il n'y a pas de vie véritable dans l'égoïsme. Et ce qui nous appartient ne nous appartient pas pour notre intérêt seul, mais Dieu nous enrichit pour que nous puissions aussi servir les uns et les autres qui sont devant nous, que Dieu a placé aux côtés de nous. Et je vous dis, la première des personnes qui sont pauvres que nous devons servir, c'est l'Église de Dieu lui-même. Ainsi, pour que cette Église locale puisse vivre, Dieu a besoin de la contribution de chacun et chacune de nous. C'est comme ça que Dieu va aussi vérifier notre manière de gérer les biens qu'il nous donne. Il voudrait voir si nous sommes en train de servir bien ceux qui sont à nos côtés. La troisième chose que je voudrais partager avec vous, pour que nous puissions garder le cap de notre fidélité dans nos engagements envers Dieu et devant Dieu, c'est que Dieu ne nous demande pas de grandes choses. Il a besoin tout simplement de notre obéissance. La bénédiction que nous avons et que nous attirons de Dieu ne dépend pas des grands gestes que nous pouvons poser, mais de la volonté de commencer à poser des petits gestes dans la foi et la fidélité à Dieu. Le travail que nous allons réaliser aujourd'hui, celui de souscrire un budget annuel de la paroisse, et c'est un acte de foi et doit traduire à quel niveau nous avons confiance en Dieu. Ça doit aussi traduire le niveau de foi de chacun de nous. Ça doit traduire combien nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous bénit. Et alors, sur un budget de 115 000 $, il est supposé que notre souscription doit couvrir 31 000 $. Ainsi, selon que Dieu me bénit, selon que Dieu te bénit, tu vas poser un petit geste. Et ce geste-là, c'est un geste de foi. C'est un geste de foi selon tes capacités, mais aussi selon ce que tu voudrais que Dieu fasse de ta vie cette année. En offrant au Seigneur de nos biens, nous attirons la bénédiction divine. Lui qui ne veut pas que nous restions égoïstes, mais que nous puissions aussi servir à travers ce qu'il nous donne comme bien. Et qui doit souscrire? Qui devra souscrire? Lisons ensemble le livre de Lévitique. Lévitique au chapitre 27. Nous voulons voir celui qui va souscrire et à quelle hauteur chacun de nous devra faire un vœu devant le Seigneur. Puisque ce que nous faisons aujourd'hui en souscrivant au budget de cette année, nous sommes en train de dire, si le Seigneur nous accompagne dans toute l'année, dans toutes nos activités, si le Seigneur va bénir nos initiatives, nous allons alors réaliser notre budget à tel ou tel autre degré. Lévitique au chapitre 27. Je suis en train de rechercher la réponse à la question de savoir qui est appelé à faire un vœu devant le Seigneur. Qui est appelé à souscrire au budget pour cette église pendant l'année. Le premier verset me dit ce qui suit. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle aux fils d'Israël. Tu leur diras. Quand on accomplit un vœu qu'on a fait au Seigneur, en se basant sur la valeur d'une personne, voici les valeurs. Donc le vœu se fait selon les capacités de chacun. Un professeur ne peut pas souscrire comme un étudiant. Un commerçant ne voudra pas souscrire comme un enseignant. C'est selon les capacités de chacun que nous allons souscrire. Alors, qu'est-ce qui est dit? Pour réaliser le vœu que nous faisons, nous devons nous baser sur les valeurs de chacune des personnes, les valeurs suivantes. Alors, au verset 3, il est dit, voici les valeurs. Alors, suivez attentivement avec moi. Pour un homme dont l'âge est compris entre 20 et 60 ans, la valeur est de 50 sicles. Sicles d'argent à monnaie du sanctuaire. Pour une femme, la valeur est de 30 sicles. Vous êtes avec moi? Merci. Cinquième verset. Pour quelqu'un entre 5 et 20 ans, la valeur des garçons est de 20 sicles. Celle d'une fille, de 10 sicles. Pour quelqu'un entre 1 mois et 5 ans, la valeur des garçons est de 5 sicles d'argent. Celle d'une fille de 3 cycles d'argent. Pour quelqu'un de 60 ans ou plus, les gens du troisième âge, la valeur d'un homme est de 15 cycles. Celle d'une femme de 10 cycles. Si quelqu'un est trop pauvre pour s'atteindre à la valeur fixée, il place devant le prêtre la personne vouée pour que le prêtre en fasse l'évaluation. Le prêtre l'évalue en fonction des moyens de celui qui a fait le vœu. S'il s'agit d'une bête prise parmi celles qu'on peut apporter en présent au Seigneur, toute bête qu'on aura donnée au Seigneur est chose sainte. Je pense qu'on peut s'arrêter d'abord là au verset 8. Vous voyez les catégories des personnes qui peuvent faire des vœux. Il commence par les gens qui ont l'âge compris entre combien? 20 et 60 ans. Il donne la catégorie et la valeur. La valeur de ceux-là, c'est 50 cycles si c'est un homme. Et si c'est une femme, la valeur est de 30. Pour quelqu'un qui est, dont l'âge est compris entre 5 et 20 ans, la valeur est de combien? De 20 pour les garçons et de 10 pour les filles. Mais pour les autres, dont l'âge est compris entre 1 mois et 5 ans, la valeur est de combien? C'est selon vraiment les catégories. Ça veut dire, tout celui qui est vivant et qui fait membre d'une église, comme nous sommes l'église aujourd'hui, si c'était à l'époque, celui qui se reconnaît être de la famille d'Abraham, de la tribu ou des 12 tribus d'Israël, devait nécessairement faire un vœu devant le Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, tu lui dis, si tu es vivant cette année, tu dois souscrire au budget de la paroisse. Y a-t-il des vivants parmi nous? Ils peuvent lever les mains. Merci. Si tu es vivant, c'est à toi qu'on demande de souscrire. De souscrire selon tes capacités. Qui doit souscrire et à quelle hauteur? C'est moi, c'est toi qui es membre de cette paroisse. Et c'est là que le Seigneur me bénit chaque jour. Je ne voudrais pas vous dire souscrivez et libérez vos souscriptions car le Seigneur vous bénira, mais je voudrais vous dire la bénédiction du Seigneur précède ce que nous donnons comme offrande. Et nous offrons de ce que Dieu nous a donné comme bénédiction. Si nous voulons garder ou vivre la grâce surabondante, nous devons garder le cap de notre fidélité dans nos engagements en Dieu. À partir du moment où nous avons été baptisés par l'Esprit en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, à partir du moment où nous avons reconnu et nous avons approprié à l'œuvre de Jésus sur la croix, nous nous reconnaissons être des gérants de Dieu. Et nous, et tout ce que nous avons, nous sommes la richesse de Dieu. Et Dieu a besoin que nous puissions user de la prudence et du discernement pour la gestion de ce qu'il nous donne et de ce qu'il met à notre disposition. Nous devons aussi être conscients d'être les fils d'Abraham. Et nous sommes appelés à bénir les autres à travers les bénédictions que Dieu nous donne. Et la première personne à bénir, c'est Dieu lui-même à travers l'œuvre que nous faisons dans l'Église. Dieu ne nous demande pas de grandes choses, mais il nous demande de souscrire à la hauteur des bénédictions qu'il nous donne chaque jour. Et que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Amen.
Disons Merci au Seigneur.
Nous disons merci au Seigneur pour sa parole. Je vais